Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Si Paris est considérée comme l'une des plus belles capitales du monde, elle le doit notamment au rêve de deux hommes, Napoléon III et le préfet Haussmann. En une quinzaine d'années, le baron Haussmann a métamorphosé le visage de la capitale française. De nos jours, 60% des bâtiments parisiens sont de style haussmannien. Pourtant, ce n'était pas gagné au départ, car tout opposait ces deux hommes au caractère très différent. Retour dans cet épisode en deux parties sur la folle aventure parisienne d'un empereur et de son préfet. Première partie, deux visionnaires. Nous sommes le 23 juin 1853. À 44 ans, Georges Eugène Haussmann vient juste d'apprendre qu'il est promu préfet de la Seine. En maintenant 22 ans de carrière, Haussmann a surtout connu des sous-préfectures, Yssingeaux, Nérac, Saint-Giron, Blaye. Alors, son poste actuel de préfet de la Gironde aurait pu être l'apothéose de sa carrière, sa consécration. Mais le destin en a décidé autrement. Pour avoir organisé à la perfection les 3 jours de visite officielle à Bordeaux de Louis-Napoléon Bonaparte, le prince président, et s'être rallié à lui quelques semaines avant le coup d'État du 2 décembre 1852, Haussmann est nommé préfet de la Seine par le tout nouvel empereur Napoléon III, sur proposition de son nouveau ministre de l'Intérieur, Victor de Persigny. Cette nomination, c'est la chance de sa vie. Préfet, donc représentant du gouvernement pour le département de la Seine, c'est à lui qu'il va incomber de faire de Paris une ville moderne. Il va lui falloir transformer la capitale française de fond en comble, et cela ne lui fait pas peur. Il a toujours eu une énergie à déplacer les montagnes. Et puis, sous des dehors de fonctionnaires, ce surdoué cache un urbaniste, un architecte, un décorateur, un hygiéniste et un sociologue. Le choix de l'empereur Napoléon paraît inattendu à certains. Haussmann est très différent de lui. Napoléon III est un héros romantique. Il a la tête pleine de rêves et de projets. Mais c'est un velléitaire, autrement dit un grand hésitant qui a parfois le plus grand mal à passer de la décision à l'action. Alors qu'Haussmann, lui, est un pragmatique, un homme d'action, pour ne pas dire un hyperactif et un être éminemment rationnel. Si ces deux-là étaient en compétition, leur personnalité serait explosive, incompatible. Mais que l'un soit placé au service de l'autre, et ils vont immédiatement non seulement merveilleusement se compléter, mais se comprendre. Napoléon III devine chez Haussmann une volonté de faire qui emportera tout sur son passage. Et de fait, Haussmann va mener à bien des projets qui, sans lui, n'auraient pas vu le jour ou se seraient enlisés. Il sera, au service de la vision de l'empereur Napoléon III, un chef de chantier zélé et imaginatif. Les deux hommes appartiennent à la même génération. Mieux encore, ils ont presque le même âge. Napoléon III est né en 1808, Haussmann en 1809. Il existe par ailleurs entre eux un lien quasi familial qui va bien faciliter les choses. Non seulement l'un des grands-pères d'Haussmann, Georges Denzel, fut jadis membre de l'état-major de Napoléon Ier, baron d'Empire et gouverneur de Vienne, mais le parrain d'Haussmann est Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine, élevé par Napoléon Ier et oncle de Napoléon III. Voilà des liens de bon aloi qui garantissent que l'on est en confiance. Napoléon III est omnubilé par Paris. transformer profondément la ville et son plus grand rêve. Mais il la connaît très mal. Lorsqu'il était emprisonné au fort de Ham dans la Somme, à la suite de son coup d'État manqué de 1840, dans sa cellule, et par la suite dans chacune de ses résidences, il a épinglé au mur un immense plan de Paris sur lequel il a représenté lui-même en rouge, vert et bleu les nouvelles rues qu'il compte faire tracer une fois au pouvoir. L'idée de transformer la capitale vient bien de lui. Mais avant de solliciter les suffrages des Français et d'être élu premier président de la République française en décembre 1848, avec tout de même 75% des voix, il a essentiellement vécu en Suisse, à Arenenberg, chez sa mère, Hortense de Beauharnais. Puis il a vécu en Angleterre pendant 3 ans, de 1846 à 1848, en Allemagne et aux États-Unis. Il ne connaît donc pas bien la capitale, ou alors, quasi exclusivement, sur le papier. Mais d'une certaine manière, c'est une chance. Il n'a pas le fétichisme des vieux monuments parisiens. Il sera capable de sacrifier certains d'entre eux à son projet d'embellissement de la capitale. Il veut donner à Paris tout ce qu'il a vu de beau ailleurs, en particulier à Londres, des gares, des espaces verts et de grandes artères. Voilà notamment ce que comporte son projet pour Paris.
Napoléon III se dit que les nouvelles portes de Paris sont les gares et qu'il faut absolument établir de nouvelles liaisons directes entre les gares et le centre de Paris.
Contrairement à Napoléon III, Haussmann, lui, est un vrai Parisien. Certes, il est d'origine alsacienne. Sa famille vient de Colmar et même en remontant un peu plus loin, sa famille était allemande. Mais sous la Révolution, ses deux grands-pères habitent déjà Paris. Tous deux siègent à la Convention avec Robespierre et Saint-Just. Et lui-même, Georges, est né à Paris, sur la rive droite, 55, rue du Faubourg du Roule. C'est l'actuel Faubourg Saint-Honoré. Baptisé à la paroisse protestante de l'Oratoire, rue de Rivoli, il a été élève au lycée Henri IV, dans le quartier latin, où il comptait parmi ses camarades de classe des élèves comme le poète, auteur dramatique Alfred de Musset et le duc de Chartres, fils aîné du roi Louis-Philippe. Quand ses parents ont déménagé dans le faubourg Montmartre, il a été élève au lycée Condorcet et par la suite devenu étudiant, pendant 4 ans, il a à nouveau fréquenté le quartier latin, son université se trouvant près du Panthéon. Quand il faisait son droit, tous les jours, il devait effectuer à pied la distance séparant son domicile familial rive droite de la place du Panthéon. Il connaît donc le cœur de Paris comme sa poche. Il peut établir le contraste saisissant entre les nouveaux quartiers de la rive droite comme la Nouvelle Athènes et le vieux Paris, encore médiéval, le Paris de la misère, de la saleté et des ruines. Des rues enchevêtrées, impraticables, tortueuses, bordées de baraques sordides et malsaines. Il sait combien il est difficile d'aller du nord au sud de la capitale. On bute constamment sur des maisons vétustes, des baraques. Circuler est très compliqué, à tel point d'ailleurs que les Parisiens ne quittent guère leur quartier. Quel homme est Georges Eugène Haussmann ? Au physique, c'est une prestance. Une force de la nature, il mesure près de 2 mètres. Il est donc beaucoup plus grand que tous ses contemporains et en plus a tendance à se redresser. Il en impose. Haussmann, c'est aussi une énergie, un lève-tôt qui est debout tous les jours à 6h30 du matin et un caractère bien trempé. Revers de la médaille, il a tendance à être brutal, arrogant, ambitieux, arriviste. Dans presque toutes ses lettres, il évoque ses années de collège avec le duc de Chartres, histoire de bien rappeler qu'il connaît du beau monde. Il est intrigant, impitoyable, cynique. Mais c'est un esprit curieux. Il est franc, entêté, persévérant. C'est une personnalité forte et innovante. Né dans la grande bourgeoisie protestante, il n'en a pas pour autant les principales caractéristiques, en particulier l'austérité. Il aime le luxe et les femmes. S'affiche avec ses maîtresses. Il possédera l'une des plus belles caves de Paris et organisera des fêtes et des bals d'un luxe inimaginable. Et puis, il adore danser. Il aime la musique. Il joue du piano, de l'orgue, du violoncelle. Il a été au conservatoire en même temps que Berlioz. Alors sous sa houlette, l'hôtel de ville, son logement de fonction, va devenir l'un des lieux les plus brillants de la fête impériale. Il devient même la plus recherchée des sorties parisiennes, car ces fêtes sont beaucoup moins guindées que les soirées aux Tuileries données par l'empereur et l'impératrice Eugénie. Les buffets y sont somptueux, les invités plus détendus. On s'arrache les invitations. Haussmann met toujours un point d'honneur à faire plaisir à l'empereur. Pour la Saint-Napoléon, le 15 août 1854, il fait donner un Te Deum dans les églises parisiennes, les théâtres jouent gratuitement, il y a d'innombrables spectacles dans les rues. 120 arcs de triomphe de verdure sont disposés le long des Champs-Élysées. Et ce soir-là, il y a bal et feux d'artifice à l'hôtel de ville. Tout cela convient très bien à l'empereur Napoléon. Le plaisir fait partie de son programme gouvernemental.
Un régime nouveau ne peut s'enraciner que dans l'éclat. Soir de printemps aux Tuileries, triomphe de tout ce qui brille, la beauté, l'argent, le bonheur.
Napoléon III considère que le Second Empire doit être un pont vers la modernité. Or, la ville est au cœur de cette modernité avec le développement des chemins de fer, de la grande industrie, des grands magasins, du gaz et de l'électricité. Il faut adapter la ville à cette nouvelle économie, inventer un urbanisme moderne qui ne se soucie pas uniquement d'esthétique et de monuments, mais aussi de santé publique et de démographie. Il va falloir créer des percées, faire circuler l'air, les civils, les troupes, la lumière, mais également unifier, harmoniser le paysage urbain. Enfin, dans la logique d'un centralisme à la française totalement revendiqué, l'empereur considère que tout doit aboutir à Paris, grande route, chemin de fer, télégraphe, et que tout doit en partir, loi, décret, décision, ordre et argent. Les trois objectifs principaux qu'il s'est assignés sont d'embellir la cité, de la sécuriser politiquement et de nourrir la croissance économique, notamment par une politique de travaux publics. Louis-Napoléon sait fort bien que la monarchie de Juillet et la Seconde République dont il a été l'éphémère président sont mortes de la crise économique. Seule la croissance et la prospérité peuvent asseoir son régime. Sa politique a pour fondement un projet humaniste, le progrès qui améliore la vie des hommes. En matière sociale, il va faire plus que tout autre avant lui pour les classes laborieuses. Au cours de son règne, il accorde le droit de coalition, l'embryon de ce qui deviendra 20 ans plus tard le droit de réunion et d'association. Il donne aussi le droit de grève, crée l'assistance judiciaire gratuite et des prêts sur l'honneur pour les familles nécessiteuses. Par la loi du 29 décembre 1851, il interdit le travail les dimanches et les jours fériés. Il multiplie les créations philanthropiques, crèches, cités ouvrières, habitations à loyer modéré. Il invente les soupes populaires, lance un programme sans précédent de lavoirs et de bains publics. Il crée les bibliothèques scolaires, crée des bourses, adopte le principe de la médecine gratuite. Entre 1848 et 1869, le salaire ouvrier progressera de 75%, du jamais vu. Quant à Paris, il n'attend pas Haussmann pour lancer ses deux premiers projets. La construction des Halles, d'abord, puis le bois de Boulogne, dont il veut faire un Hyde Park parisien. Hyde Park, c'est un grand parc dans le centre de Londres. Le bois de Boulogne va devenir le lieu emblématique de la société du Second Empire et de ce que l'on appellera bientôt la fête impériale. C'est au Second Empire que Paris doit l'essentiel de ses jardins publics. En revanche, c'est bien Haussmann qui fait installer le jardin d'acclimatation, qui fait dessiner l'hippodrome de Longchamp, dont il paie le terrain en vendant aux promoteurs des parcelles à construire du côté de Neuilly. Résultat des courses, le projet Bois de Boulogne coûte à peine 2 millions à la ville. Pour les Halles, c'est une autre affaire. L'architecte Victor Baltard, Grand Prix de Rome, à qui l'on a confié le projet, construit d'abord un édifice très massif en pierre. Tout le quartier l'appelle le fort de la Halle. Napoléon III n'en est pas satisfait du tout. Il l'a fait détruire.
« Ce sont de vastes parapluies qu'il me faut, et rien de plus !»
dit l'empereur en esquissant la chose de quelques coups de crayon. Il veut un bâtiment moderne, utilisant le fer et le verre. Baltard doit revoir sa copie. Haussmann a de la sympathie pour Baltard. Comme lui, il est ancien élève du lycée Henri IV, comme lui, il est protestant. Il décide donc de lui donner une seconde chance. Le résultat est au-delà de toute espérance. Les Halles Baltard, union de la technologie et de l'art, sont un chef-d'œuvre de l'ère industrielle. Pour Haussmann, le bois de Boulogne et les Halles ont été une sorte de ticket d'entrée dans les petits papiers de l'empereur. Il a montré sa capacité à faire avancer les choses et à régler les problèmes. Le tandem peut désormais s'attaquer au plat de résistance, Paris, Paris tout entier. En quoi vont consister les travaux? Comment va-t-on les financer? Et qu'en pensent les Parisiens? C'est ce que vous saurez dans la seconde partie de cet épisode consacré aux travaux d'Haussmann et de l'empereur Napoléon III.